18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bien, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver, chers amis auditeurs. C'est parti, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Et jusqu'à 19h30, eh bien, vous savez quoi? Eh bien, tout simplement, nous vous proposons une spéciale réforme des retraites durant une heure et demie où vont se succéder, eh bien, politiques, spécialistes, journalistes, syndicats, professeurs, militants, activistes, tous vont venir défiler sur notre antenne aujourd'hui par téléphone pour nous expliquer les raisons évidemment de cette journée. Paraît-il, selon les sources policières, eh bien figurez-vous, c'est inédit ce qui est en train de se passer. Selon certaines sources policières que je viens d'avoir, eh bien le million serait dépassé en France de manifestants. Le million serait dépassé. Sources policières. Donc j'ose même pas imaginer ce que va nous dire les syndicats. Ensuite, vous avez entre 400 et 450 000 manifestants, là aussi c'est inédit, seulement sur Paris. Eh bien, peut-on parler d'un succès de cette journée de forte mobilisation? Nous allons aborder tous les enjeux qui nous concernent, concernant donc cette grève qui était très attendue, cette grève évidemment contre la réforme des retraites. Nous allons aborder évidemment tout, y compris la mobilisation des jeunes. Voilà ce qui vous attend, c'est le programme qui vous attend. Et bien sûr, et bien évidemment, vous aussi au 01 53 48 3000, vous pouvez venir. Vous pouvez aussi nous dire si vous avez manifesté ou pas, si vous avez suivi la manifestation. Bref, tout cela, nous en parlons à l'antenne. Et c'est ici que ça se passe, donc c'est parti pour Les Informés. Émission spéciale, réforme des retraites, c'est parti.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
Évidemment, et dans l'ambiance des manifestations qui se déroulent en ce moment même, sous une ambiance, hein, évidemment, avec Anthony qui est à la réalisation. Bonjour, nous commençons avec notre premier invité, quelqu'un que vous connaissez, qui est débatteur, influenceur ici chez nous. Il s'appelle Nicolas Vidal, il est le fondateur, directeur de Pitch. Pitch, c'est un média en ligne. Bonsoir Nicolas Vidal.
Bonsoir Adil Farkan, bonsoir, comment allez-vous?
Mais très très bien, je vous remercie infiniment d'être avec nous en direct justement. Pour commenter, nous allons faire donc une édition spéciale, émission spéciale jusqu'à 19h30 ensemble. Évidemment, je ne vais pas vous garder jusqu'à 19h30 bien sûr, mais beaucoup, je le disais tout à l'heure, vont défiler sur notre antenne politique, syndicat, etc. Alors vous Nicolas Vidal, vous êtes journaliste, justement, comment vous avez observé cette journée? Moi j'ai une source policière qui m'a indiqué justement que le... paraît-il que le million serait dépassé en France. Peut-on parler d'ores et déjà d'un succès, justement, des syndicats et de cette mobilisation de cette journée?
Alors, premier élément de réponse, il n'y a qu'à voir les bandeaux d'infos des chaînes mainstream. Ils disent tous qu'il y avait beaucoup de monde. Et là, le ton a été donné dès ce matin sur les premières manifestations à
Rouen,
au Havre, à Toulouse.
Nantes. Inédit, ce qui s'est passé.
Beaucoup de monde, et pour avoir l'expérience des mouvements populaires, vous savez, dès le matin, vous savez, c'est les premières estimations, vous voyez immédiatement que le mouvement va être suivi. Oui. Deuxième observation qui me paraît extrêmement intéressante, il ne faudrait pas faire l'erreur de résoudre finalement cette manifestation à des syndicats, parce que je peux vous assurer, Adil, que les infos que j'ai eues de terrain en province...
Parlons-en justement, si vous avez des infos, parlons-en.
Oui, et bien justement, que ce soit en province, chez moi, à Montpellier ou dans les grandes villes, et à Paris où je suis allé, bien entendu, parce que je suis un journaliste de terrain, vous le savez, Adil, il y avait aussi beaucoup de citoyens et des primo-manifestants. Rappelez-vous, Adil, les Gilets jaunes, c'était beaucoup de primo-manifestants. Et là, nous retrouvons des gens qui n'ont jamais manifesté, ni pour la réforme des retraites en 2019, ni pour les Gilets jaunes en 2018-2019, ni pour aucune chose. Et là, les voilà dans la rue. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les syndicats, aujourd'hui, sont devenus, sont force de proposition dans la mise en place des modalités d'une date, d'un lieu et d'une horaire. Mais maintenant, les gens ont envie de manifester, contester, protester vigoureusement, et ils s'appuient, bien entendu, sur des appels. Donc ça veut dire que ça change beaucoup, parce que, permettez-moi de vous dire, que des syndicats sans citoyens, ils ne font pas 400 000 personnes à Paris. Très clairement. Moi, j'ai fait une manif de 2019, il y avait beaucoup de syndicalistes, on était 200 000. Vous voyez? Donc c'est intéressant aussi d'avoir cette vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'agrégat des luttes, l'agrégat des colères, Et on verra dans les prochaines heures, les prochains jours, donc, est-ce que ça va déboucler sur des grèves ou des blocages.
Eh ben, voilà. Je crois que d'ores et déjà, les syndicats ont annoncé, d'ailleurs, hein, ils ne l'ont pas caché, que les mouvements de grève vont être reconduits, de certains pour demain, la semaine prochaine. Certains même parlent de que cela, évidemment, ça va durer. Mais vous avez parlé de révolte, vous avez parlé de colère, justement, Nicolas Vidal. Je veux vous poser la question. Cette colère, cette révolte, justement, cette mobilisation, ce n'est pas que, justement, pour parler de la réforme des retraites. C'est aussi d'une manière, cette mobilisation, c'est aussi une manière, évidemment, de profiter pour parler de tous les sujets. Tous les, évidemment, on est d'accord, hein, ça canalise. En gros, ma question est très simple. Cette mobilisation canalise-t-elle toutes les colères, tous les mécontentements?
Ben, 5 ans de politique sociale brutale. On l'a bien vu avec Emmanuel Macron. Les gens, vous l'avez dit, c'est la colère, c'est l'injustice sociale, c'est le manque de dignité pour les travailleurs, pour les Français moyens. Je rappelle aussi que la classe moyenne est en train d'être désossée, la classe moyenne en termes financiers est en train d'être désossée, notamment par une fiscalité importante, notamment aussi par cette réforme des retraites. N'oublions pas aussi l'assurance chômage qui va arriver au 1er février. Il faut parler de tout ça. Et bien entendu, cette histoire-là, et puis l'inflation. L'inflation, comment ne pas parler de l'inflation? Comment ne pas parler de l'inflation? Je vais vous donner 2 exemples très précis. J'ai déjeuné avec un magistrat récemment, et il me disait lui-même qu'il commençait à se sentir déclassé. Vous imaginez que ce sont des gens qui font partie de la classe moyenne supérieure, c'est des gens qui, de plus en plus, commencent à me dire qu'ils vivaient bien, qu'ils étaient aisés, qu'ils pouvaient partir en vacances, et ils commencent à me dire qu'ils se sentent déclassés, ne serait-ce que par l'inflation. Donc vous voyez bien que maintenant, il y a eu les classes populaires, les classes laborieuses, les classes moyennes ont commencé avec les gilets jaunes, et là aujourd'hui on est sur les classes moyennes, mais sur les classes moyennes supérieures, notamment avec l'inflation. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant de se rendre compte que c'est une véritable, je vais le dire, une liquidation sociale. Et si je parle de quelque chose à dire là-dessus, ce qui n'est pas beaucoup dit sur les plateaux, et je sais que chez vous je peux le dire, c'est qu'il faut toujours penser qu'Emmanuel Macron suit la feuille de route de l'Union européenne, notamment sur les grandes orientations de politique économique. La réforme des retraites est imposée par Bruxelles, la réforme de l'assurance chômage est imposée par Bruxelles, la baisse des dépenses de santé qui touche de plein fouet l'hôpital. Donc tout ça n'arrive pas du ciel. Quand on me dit que c'est une réforme juste et équitable, ce n'est pas vrai. Il suffit d'aller se plonger dans les textes européens. Alors la littérature n'est pas agréable, je vous l'accorde bien volontiers, mais la réalité, c'est qu'il faut quand même prendre un peu de hauteur de vue et se rendre compte que la politique d'Emmanuel Macron néolibérale est imposée par Bruxelles.
Justement, vous avez parlé du chef de l'État, justement, Nicolas Vidal. Vos journalistes, vous avez parlé du chef de l'État, vous avez parlé évidemment de ces consignes concernant donc Bruxelles, hein, on a bien compris, l'Europe. Oui. Je vous pose la question. Aujourd'hui, est-ce que cette forte mobilisation, notamment, nous attendons les chiffres, donc le chiffre officiel, qui va pouvoir nous dire précisément hein, à combien se chiffre la mobilisation ici en France. Mais certains parlent d'ores et déjà d'un grand succès, d'un très grand succès aujourd'hui, puisque c'est inédit ce qui est en train de se passer, puisque nous n'avons pas vu, évidemment, cela depuis plusieurs années. Ma question est très simple, Nicolas Vidal. Est-ce que ça va faire plier le gouvernement? Est-ce que cette mobilisation pourra faire changer, évidemment, fléchir Emmanuel Macron, le chef de l'État?
Là, nous arrivons au point central. Au point central. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, on va en reparler. Emmanuel Macron doit mettre en place le plan néolibéral bruxellois. Mais à un moment donné, si la contestation est très forte, jusqu'à quel point Emmanuel Macron va pouvoir tenir? Aujourd'hui, un exemple, vous aviez les syndicats politiques qui étaient dans la rue. Donc, est-ce qu'à quel point Emmanuel Macron va pouvoir tenir si vous avez des blocages dès demain, notamment dans les conserveries dans la Somme, je pense à eux notamment, si vous avez un blocage du pays avec des pénuries alimentaires, des pénuries d'énergie ou toute autre chose, ou une chose qui font suite au blocage, Emmanuel Macron, à un moment donné, il ne pourra pas laisser le pays totalement bloqué. Donc, dans ce cas-là, il va devoir se défausser par rapport aux injonctions bruxelloises. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que non, Emmanuel Macron, il va tout perdre. Il ne pourra pas mettre en place ce plan concrètement. Et la réforme des retraites, il faut le rappeler aux auditeurs, la réforme des retraites, depuis le début, le premier jour de son mandat, c'est sa réforme cardinale. C'est celle qui va basculer et ouvrir les portes pour imposer tout ce qu'il y a derrière en termes de déficit. Vous avez ce qu'on appelle les déficits publics, concrètement. Et le déclassement, l'ubérisation, le libre-échange, le dumping social qui amène de la misère, la désindustrialisation, la délocalisation des entreprises. Donc, concrètement, aujourd'hui, c'est la question centrale, c'est est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir tenir face à la rue? Parce que je dis la rue, je ne parle pas des syndicats, vous avez bien compris, je parle de la rue. On va le savoir très rapidement, très prochainement. Voilà, on va te voir prochainement.
Très prochainement. Encore quelques questions avant de, évidemment, oui, de poursuivre, parce que nous avons beaucoup d'invités qui vont défiler sur notre antenne. Notamment, je serai avec Thierry Vincent, qui lui était sur place, justement, et qui a vécu quelques incidents dans une poignée de minutes. Justement, on va parler d'incidents. On nombre donc 30 interpellations au total à Paris. Évidemment, depuis plusieurs jours, on a tout entendu, hein, qu'il va y avoir de la violence, que les Black Blocs vont s'emparer, justement, de cette mobilisation pour pouvoir, évidemment, taper du poing. Aujourd'hui, effectivement, on peut souligner que tout s'est déroulé plutôt dans un bon esprit, bon enfant.
Oui, bien entendu, parce que je pense que la quintessence même de cette révolte sociale ne se fera pas par les manifestations, elle se fera par des grèves et des blocages. Les manifestations dans un pays démocratique serein, rappelez-vous la réforme de Juppé en 95, le gouvernement avait reculé. Il y a eu 1 million de personnes,
il avait reculé, c'est vrai. C'est vrai.
Alors qu'il s'était montré inflexible.
Mais le contexte n'était pas le même à l'époque. C'était 3 millions de personnes. C'était 3 semaines. C'était on ne peut pas comparer. Mais vous avez raison.
Regardez pendant les Gilets jaunes, par exemple, ça a été plus que 3 semaines. Il y a eu beaucoup de monde. Donc ce gouvernement n'a pas envie de reculer et on va se retrouver. Moi, je pense que les modes d'action seront pas les mêmes qu'avaient les Gilets jaunes. On n'aura pas des manifs comme ça en permanence. Nous aurons plutôt des secteurs énergétiques de premier plan, de première intensité, qui vont se mettre en grève les uns après les autres, et on arrivera probablement à un blocage total du pays qui va bloquer l'économie. Ça va faire une espèce de thrombose. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron va lâcher ou est-ce qu'il va aller déblayer les points de blocage avec les CRS? Ça risque d'être sportif, à mon avis. Ça risque d'être très sportif et surtout, a dit, explosif, et je le déplore par avance, bien entendu.
Merci, Nicolas Vidal. Nicolas Vidal, merci infiniment d'avoir. Je sais que je dois vous libérer parce que je sais que vous êtes pris ce soir et vous allez participer à un autre plateau, évidemment, donc pour pouvoir commenter cette réforme des retraites et cette mobilisation. Je le rappelle à nos auditeurs, vous êtes le fondateur de Pitch Media, mais également aussi éditorialiste dans d'autres médias, évidemment. Merci Nicolas Vidal.
Merci Adi Farkan, bonne soirée.
Et à
merci.
Très vite sur notre antenne. Thierry Vincent est avec nous. Bonsoir Thierry Vincent.
Bonsoir Adil.
Thierry Vincent également, journaliste. Vous étiez sur place, vous notamment. Aujourd'hui, comment vous avez vécu cette manifestation à Paris, Thierry Vincent?
D'abord, il y avait un monde fou. Hein. Je sais pas les chiffres qui sont donnés. Enfin, j'ai vu
400 000 à Paris et plus d'un million en France. Et le million est dépassé, oui.
Le million est dépassé.
Bon, oui. Le million est dépassé en France.
Non, quand on dépasse un certain seuil, de toute façon, on n'arrive plus à se rendre compte. Mais il y avait énormément de monde. Pour ceux qui connaissent Paris, la place de la République était pleine. Enfin, il y avait des gens déjà à Bastille quand les premières républiques n'étaient pas encore partis, hein, pour ceux qui connaissent la capitale. Mmh. Et non, mais moi j'étais en fait dans le cortège de tête, puisque ce qu'on appelle le cortège de tête, c'est-à-dire que je suivais toute la mouvance radicale, autonome, etc., qui n'est pas forcément affiliée à un syndicat, etc., mais c'est bien un mélange de syndicalisme, genre un peu, voilà. C'est là où il y a en général des violences. Donc avant même que les syndicats ne partent de...
C'était violent?
Oui, c'était très violent. À un moment,
c'était violent. Quand on dit que c'était violent, ça veut dire quoi? Ça veut dire un clash avec les CRS qui étaient sur place, avec la police, et ça veut dire quoi?
D'abord, ils avaient quand même protégé toutes les banques. Alors ça, moi, j'ai jamais vu ça. Il y avait des espèces de... Comment dire? C'est en fait, les distributeurs, c'était fermé par une espèce de boîte en métal, quoi. C'était complètement, voilà. Donc, il n'y avait pas grand chose à casser, effectivement, puisque comme j'avais précisé autrefois, en fait, ils s'attaquent pas aux petits commerces, les cafés, tout ça restait ouvert. C'est pas forcément très tranquille, mais enfin, ça restait ouvert. Et à un moment, en fait, il y a eu une matmut, une compagnie d'assurance, c'est-à-dire qui a feutré avec des tas de bouts de bois, des trucs, et bon, ils ont défoncé le truc, quoi. Ils ont réussi à rentrer à l'intérieur brièvement et c'est fermé, hein. Donc, la police était quand même vraiment très 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 discrète, parce qu'il y avait 10 000 policiers, hein, annoncés par Gérald Darmanin, qui est absolument énorme, hein. Énorme.
Bien sûr que c'est énorme.
C'est beaucoup, hein. C'est absolument considérable. Alors, c'est vrai qu'on savait pas où ils étaient parce qu'ils étaient extrêmement discrets, ce qui est une tactique plutôt habile, parce que bon, ça fait pas trop monter la pression, mais au bout d'un moment, bon, ils ont été obligés d'intervenir. C'est une espèce de raid éclair, on les a pas vus arriver, leur panique parmi les gens, etc. Et là, j'avoue que j'ai eu assez, ils ont voulu protéger donc la compagnie d'assurance, et j'avoue que j'ai eu assez, franchement, la trouille pour eux, hein, parce que je crois qu'ils étaient peut-être une vingtaine et ils étaient encerclés.
Mais hein, rassurez-moi, vous, ça va ou non? Parce que j'ai cru comprendre que vous avez pris une pierre sur la tête.
Bon, c'est pas grave. Non, c'est un petit caillou. Ils savent pas viser. Non, parce que c'était au moment où ils...
Mais rassurez-nous, nous, on a besoin de savoir si vous allez bien.
Mais oui, Adil, tout va bien. Non, 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 c'est rien en fait. Hein. J'ai simplement en rigolant. Oh, j'ai un peu de sang, mais c'est rien. Je me suis fait soigner parce qu'il y a des. Mais c'est non, non, il y a rien de grave du tout. Hein. C'est, mais oui, comme quoi, faut faire attention quand même. Hein. Après, je vais peut-être me calmer parce que j'étais un peu trop près là.
Thierry Vincent, comme je dois lancer la pub.
Très, très violent, ouais. Parce que,
très violent, oui.
Très, très violent. Parce que, ben, franchement, là,
qui était violent? C'est les syndicats, c'est qui? C'est les Black Blocs, c'est qui?
Bon, c'est pas les syndicats, c'est toute la foule un peu des inorganisés qui sont un peu organisés quand même, mais des autonomes, on veut dire qui sont autonomes des syndicats, des mélanges de Black Blocs, de gilets jaunes, de syndicalisme et parfois avec des syndicaux, mais défilant hors de leur cortège. On appelle le cortège de tête, c'est les plus radicaux. En fait.
En quelques secondes, parce que je dois lancer la pub, mon cher Thierry Vincent, dites-moi juste une question, rapidement d'une phrase. Est-ce qu'on peut parler d'un succès pour cette mobilisation aujourd'hui, vous qui étiez sur le terrain?
Moi, j'ai vu que les radicaux. Enfin, non, mais c'est vrai que vu les chiffres, oui, c'est incontestablement un succès. Hein, parce que il faut se souvenir juste que les derniers grands mouvements sociaux, c'est-à-dire les gilets jaunes, et puis un petit peu avant, en 2016, il y a la loi travail, ça c'est hors syndicat quand même, c'est hors des syndicats, et là ils ont la main, c'est eux qui ont lancé le mot d'ordre, ils sont pas à la remorque, et là pour eux c'est un succès. Et du côté des éléments radicaux, juste un mot et violent, des Black Blocs, des gilets jaunes radicalisés, bah, on peut dire aussi, entre guillemets, que c'est un succès, parce que c'est très 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 nombreux, j'en ai jamais vu autant, je crois, hein,
vraiment. Et bien. Voilà. Grand merci Thierry Vincent d'avoir été avec nous et de nous avoir commenté donc ce émission spéciale consacrée à la réforme des retraites. Merci Thierry Vincent et au plaisir de vous retrouver.
Merci Adil, à très bientôt. Au revoir.
À très bientôt. On lance la pub et on se retrouve justement avec d'autres invités. Et là, c'est une preuve justement avec laquelle on sera et de continuer de parler de cette spéciale émission spéciale Les Informés, spéciale réforme des retraites.
Les Informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30 et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h23, merci de nous suivre dans cette émission spéciale Les Informés avec la réforme des retraites, la mobilisation, les enjeux qui nous attendent justement. On continue d'en parler avec tous nos invités et cette fois-ci, vous le savez, avec tous nos invités, quand je dis tous nos invités, c'est y compris, vous savez, les syndicats, les activistes, les indépendants, bref, tout le monde aura le droit évidemment de défiler sur notre antenne aujourd'hui, y compris vous. Auditeur au 01 53 48 3000 tout à l'heure justement pour venir parler de cette manifestation, de la manière dont vous l'avez vécu. Nous sommes avec une prof, c'est Soraya Rajdi. Soraya Rajdi, vous êtes professeur me semble-t-il, hein. Bonsoir.
Oui, bonjour, bonsoir. Oui, je suis enseignante d'histoire-géographie dans le secondaire.
Merci d'être avec nous, Soraya Rajdi, justement. Vous, en tant que prof, tout d'abord, première question, est-ce que vous étiez pour cette mobilisation? Comment vous l'avez vécu et est-ce qu'aujourd'hui vous avez été gréviste pour soutenir justement ce million, on parle de un peu plus du million de manifestants en France?
Alors oui, j'étais évidemment pour ce mouvement et non, je n'ai pas été gréviste aujourd'hui pour différentes raisons que je peux expliquer.
Alors dites-moi justement, comment vous l'avez observé cette manifestation aujourd'hui, quand on parle un peu plus de 400 000 personnes à Paris, mais surtout le million, hein, dépassé. Selon certaines sources policières, on risque de nous donner des chiffres entre 1 million et 1 million 2, et selon les syndicats, puisqu'ils grossissent un peu, ils donnent leurs chiffres, hein, évidemment il y a un décalage, je ne serais pas étonné qu'on parle de 2 millions.
Oui, non, je serais pas étonnée. Après, faut être réaliste. Donc, je pense que cette mobilisation, elle est plutôt réussie. Du coup, moi, je travaille dans un établissement privé, donc c'est un peu différent. Les chiffres sont un peu plus dégonflés, il me semble, dans le privé, mais tout de même présent. C'est-à-dire qu'il y en a eu plus que les années précédentes. Donc c'est complètement soutenable. Et non, c'est très bien. Mais après, faut pas se leurrer. Hein. C'est pas une manifestation qui va tout régler. C'est un combat de longue haleine et pour tous les corps de métier. On l'a bien vu avec les gilets jaunes. On le voit bien aujourd'hui.
Oui.
Donc il n'a pas commencé, il n'a pas fini ce combat.
Tout à l'heure, en tout début d'émission, j'avais Nicolas Vidal, qui est journaliste, qui était notre invité aussi, qui a ouvert l'antenne avec nous, et qui disait justement, cette mobilisation, c'est pas que la réforme des retraites, c'est aussi toutes les colères. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais bien sûr, il y a plein de frustrations qui sont exprimées aujourd'hui, il y a plein de non-dits, il y a plein de, voilà, des choses qui ont été retenues, notamment pendant la période de Covid, où il y a eu un gros frein à toutes les mobilisations, à toutes les revendications.
Oui.
Donc là, voilà, on estime que cette période est derrière nous et le social, lui, il est loin d'être derrière nous. Il est derrière, devant et dans le futur. Donc oui, c'est évident que ça représente pratiquement tous les corps de métier. Des enfants aux retraités, on est tous concernés. Par
surtout
ça.
Qu'on sait, on a un chiffre, hein, c'est 66% des Français qui sont contre cette réforme. Est-ce que la révolte va continuer, évidemment, d'être présente aujourd'hui dans notre pays?
Ouais, 66% même là, hein, faut savoir qui sont 66%. Moi, je pense qu'il y en a même un peu plus. Écoutez, c'est une grande question, Adil. Est-ce qu'elle va continuer? Ben, je l'espère. Je suis pas. J'aimerais bien avoir cette boule de cristal pour savoir. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère fortement, c'est qu'elle va continuer, qu'elle va s'amplifier et que.
Mais on sent qu'il y a un ras-le-bol, Soraya Rajdi. On sent qu'il y a un ras-le-bol. On sent qu'il y a une colère. Et c'est d'ailleurs. Est-ce que je vous pose la question? Est-ce que c'est pas clairement le rejet justement de cette réforme?
Il y a le rejet de cette réforme, il y a le rejet de ce que représente aussi, je pense, le président de cette République, qui met tout derrière cette réforme des retraites comme si c'était la baguette magique et l'unique solution. Donc c'est un petit peu de la manipulation que de proposer deux soi-disant solutions et que celle-ci est la moins pire. Hein. C'est vraiment des techniques... De politiciens et non, en fait, ce n'est pas la seule solution et on voit même, enfin, j'ai envie de vous dire que dans le corps enseignant, pour parler de mon corps de métier, enseigner à plus de 60 ans, c'est super compliqué. Moi, je vous dis, j'ai 30 ans et déjà, des fois, j'ai besoin de m'arrêter en semaine parce que je suis exténuée de ce qu'on nous demande de faire à petit salaire. Et c'est vraiment parce qu'on aime les enfants, on aime l'enseignement qu'on reste. C'est un métier de cœur et c'est pas du tout autre chose. Donc, pousser les enseignants à aller au-delà de leurs limites. Vous imaginez une personne qui a 60 ans devant une classe bondée de collégiens, voilà, ou de quatrième. Enfin, c'est pas du tout, c'est pas humain, en fait. C'est pas humain. Et donc, je pense que l'humain, il est vite oublié dans toutes ces réformes politiciennes et qu'on met l'économie avant tout. Et finalement, ça va même, c'est même contre l'économie qu'on joue en faisant ça.
Mais c'est quoi, cette crispation? C'est quoi cette colère? C'est cette crispation? Vous parliez du chef de l'État, Emmanuel Macron. C'est quoi au juste? C'est cette somme, cette addition justement, à la fois de réforme des retraites, à la fois cette inflation, à la fois de cette vie qui coûte de plus en plus cher, à la fois de l'électricité, à la fois du gaz, à la fois de ça. Est-ce que c'est tout ça, évidemment, en somme, qui évidemment viennent provoquer dans la majorité des Français cette véritable colère aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'attendre? Je vous le dis, même si évidemment la comparaison n'est à peu près pas la même, mais est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble à 1995 avec Juppé et Chirac?
Écoutez, c'est vrai que Emmanuel Macron, bon, je parle, je suis un peu crue parce que c'est la journée qu'il le veut aussi, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il doit gérer plein de choses en même temps. Ça, on peut pas lui enlever ça. C'est que c'est une période extrêmement compliquée pour tout le monde. On parlait du Covid, on parle des retraites, on parle de l'inflation, on parle de la guerre en Ukraine, etc. Il doit composer avec tout ça. Donc évidemment, en tant que président de la République, il doit avoir une vision beaucoup plus globale et décentrée que les autres. Mais en même temps, cette frustration, cette colère et cette fatigue, elle vient d'une non-écoute du citoyen, d'une non-écoute.
Mais c'est quoi ce non-écoute? C'est le manque de concertation? C'est ça qu'on regrette aujourd'hui?
Le manque de concertation, le manque de confiance, c'est-à-dire cette infantilisation constante de la population. Et en fait, ça, je pense que les Français, les Françaises le ressentent. Et on se rappelle des mots d'Emmanuel Macron, de ceux qui ne travaillent pas, qu'on croise dans, je ne sais plus c'était quoi sa phrase exactement, dans les transports, il y a ceux qui travaillent et ceux qui ne font rien. Cette infantilisation, ce mépris-là qui est ressenti. Et effectivement, enfin, je vais revenir encore sur l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a des solutions. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ça. Il y a des choses qui sont proposées et qui ne sont pas mises en place, qui ne sont pas écoutées. Après, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que si ça ne vaut pas le coup économiquement parlant, parce qu'effectivement, d'un point de vue des plus décentrés, on estime que ça ne vaut pas le coup. Mais voilà, après, ce sont des choix politiques. C'est-à-dire qu'on estime aujourd'hui dans ce pays que l'éducation n'est pas très importante. C'est-à-dire que, voilà, on sait très bien que ces politiciens-là ont grandi et ont été éduqués dans des écoles privées. Et quand je dis privées, c'est privé plus. Ils se font soigner dans des hôpitaux privés plus. Et en fait, pourquoi? Pourquoi ce sont des élus de la République? Ouais. Et c'est pas la République qui les soigne. Donc en fait, il y a des priorités qui sont mises par ces hommes et ces femmes politiques qui ne sont pas les priorités des Français et des Françaises aujourd'hui. D'où la colère, je pense.
Un mot, est-ce que vous pensez que les choses vont durer? Est-ce que ça va, évidemment, les manifestations? Je sais que certains syndicats appellent de nouveau à renouveler pour demain, et puis dans les jours, dans les semaines à venir. Est-ce qu'on peut s'entendre à autant de succès qu'aujourd'hui? Selon vous, évidemment. Ce blocage du pays.
Écoutez, je pense que cette journée, ça a été la plus grosse. Après, ça va s'essouffler parce que les gens ont besoin de travailler aussi. Après, on n'a pas la chance. Enfin, je me rappelle de la grève qu'on a tous subie et aussi peut-être soutenue, qui a créé une certaine crise de l'essence. Voilà, les pompes, etc., exact. Qui ont été bloquées. Bon, là, c'est facile. Enfin, c'est un peu plus simple dans le sens où une poignée de personnes a pu immobiliser le pays. Mais là, quand on parle à grande échelle comme ça, d'enseignants, enfin, je sais pas, de tous les corps de métier, c'est un peu plus compliqué en fait de durer. Après, ça existe, hein. Je dis pas qu'historiquement ça n'a pas existé. Pourquoi pas? On verra, mais je le pense pas. Ça pardon.
Merci infiniment d'avoir été avec nous, Soraya Rajdi, et au plaisir de vous retrouver ici même merci sur le plateau de Désinformé. Merci à vous et excellente soirée.
Merci, au revoir.
18h32, évidemment, je voudrais vous soumettre quelques chiffres. Hein. Nous allons continuer de recevoir, avant de lancer la seconde pub, et de recevoir aussi d'autres invités. Jérôme Rodriguez sera avec nous dans une poignée de minutes, justement, ne manquez pas ce leader charismatique des Gilets jaunes qui était avec nous sur le plateau, qui va être dans une poignée de minutes notre invité justement pour commenter cette journée. Alors on parle d'ores et déjà Martinez, ça vient de tomber, ça y est, Philippe Martinez vient de nous annoncer qu'il y a aujourd'hui plus de 2 millions de manifestants. 2 millions de manifestants. Le secrétaire général de la CGT qui vient de nous annoncer les 2 millions de manifestants vont être dépassés. Autant dire que c'est un véritable succès. 30 interpellations dans le cortège parisien. La CGT annonce plus de 400 000 manifestants à Paris. Je viens de vous le dire, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, lui a annoncé qu'il y avait plus de 2 millions de manifestants qui vont être dépassés. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore le chiffre officiel. On attend la source policière. Donc autant dire que les syndicats aujourd'hui qui ont appelé à ce mouvement national pour protester contre la réforme des retraites, eh bien, elle a rencontré un énorme succès, évidemment, disent-ils donc tous les syndicats et tous celles et ceux qui ont organisé donc cette journée de mobilisation massive. Nous marquons une pause pub et on se retrouve avec Jérôme Rodriguez, pardon, qui lui est vraiment un des plus gros leaders des Gilets jaunes, incontesté et incontestable justement, qui sera dans une poignée de minutes avec nous sur notre standard, qui sera avec nous depuis je ne sais où, mais il est avec nous. Je voulais dire depuis le standard, mais ça c'est au 01 53 48 3000 si vous voulez venir réagir. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et les informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h40 dans cette émission spéciale Les Informés, émission spéciale consacrée à la réforme des retraites. Justement, on en parle avec le défilé des invités justement de tous bords, politiques, syndicats, activistes. Ici, viennent défiler sur notre antenne pour parler de cette émission spéciale mobilisation. J'ai un chiffre à vous communiquer qui vient de tomber il y a à peine quelques minutes. Et bien tout simplement, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui nous a indiqué que plus de 2 millions de manifestants vont être dépassés en France. Et pour en parler avec Mehdi Bellabbas, justement, un acteur politique. Bonsoir Mehdi Bellabbas.
Bonsoir Adil.
Vous êtes dans le sud de la France, justement. Philippe Martinez vient de nous communiquer qu'il y avait plus de 2 millions de manifestants dans toute la France. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer que c'est un énorme succès, Mehdi Bellabbas?
Oui, c'est un énorme succès, effectivement. Moi, je l'ai vu ici en province, à Perpignan. On a eu une très très grosse mobilisation, plusieurs milliers de manifestants, certains membres participants au défilé me disaient qu'ils n'avaient pas vu ça depuis plus de 15 ans lors des dernières mobilisations contre les réformes de Nicolas Sarkozy, c'est pour vous dire. Donc effectivement c'est une très belle mobilisation très forte qui va, je l'espère, mais en tous les cas interpeller très très fort le gouvernement.
Mais quand on vous dit que c'est la référence, justement, la référence qui revient régulièrement, c'est quoi? C'est 2010, la mobilisation de 2019, 95?
Je pense que tout le monde a en tête, les mobilisations de 1995, les grandes grèves de décembre 95, et puis effectivement, les grandes grèves de 2010. En 2019, il y avait beaucoup de monde, mais malheureusement, ça n'a pas réussi à renverser la vapeur. Donc effectivement, on a tous en tête la mobilisation de 2010. Maintenant, l'intersyndicale a rappelé que c'était une première journée de mobilisation et qui va en appeler d'autres. C'est un bras de fer qui commence avec le gouvernement et on va attendre de voir quelles vont être les réactions ce soir et demain d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron.
Alors cette forte mobilisation, est-ce que c'est un acte politique fort, Mehdi Bellabbas, quand on voit notamment que Laurent Berger, il le dit clairement, il est remonté, hein, Laurent Berger. Il dit, bah oui, écoutez, clairement, pour moi, c'est pas bon signe.
Et c'est un investissement parce que la CFDT, Laurent Berger, était quand même un syndicat, c'est un syndicat très ouvert au dialogue, qui a tenté de travailler main dans la main lors du précédent quinquennat avec Emmanuel Macron. Et le fait que ce soit la CFDT et Laurent Berger qui soient très actifs, très remontés dans cette mobilisation, au même titre que la CGT, mais on les voit bien du côté de la CFDT, ben c'est un avertissement pour le gouvernement. Ça veut dire que ils ont plus de relais, eux, chez les forces syndicales et chez les salariés.
Oui, dites-moi justement, cette forte mobilisation, je vous posais la question, est-ce que c'est aussi un acte politique très très fort ?
Oui, alors les politiques, enfin, quand on se lève et qu'on manifeste, c'est un acte politique. Et d'avoir 2 millions de personnes dans la rue, c'est un acte politique. Mais tous les sondages
de 2 millions, plus de 2 millions,
les,
selon Martinez.
Plus de 2 millions. Les Françaises et les Français sont majoritairement opposés à cette réforme Martinez, des retraites. Emmanuel Macron et le gouvernement de la République en marche n'ont pas la légitimité pour porter cette retraite-là, cette réforme des retraites-là.
Est-ce que vous pensez, franchement, je vous le dis clairement, Mehdi Bellabbas, justement, après on va commenter justement ce qui s'est passé dans le Sud, cette mobilisation du côté de donc du Sud. Franchement, est-ce que le chef de l'État, est-ce qu'il peut entendre ce qui s'est passé aujourd'hui ? Est-ce qu'il les entend, ces plus de 2 millions de manifestants ?
Ah ben, moi j'aimerais, mais malheureusement, on sait qu'Emmanuel Macron, il a quelques difficultés à entendre les corps intermédiaires, à entendre les syndicats, à entendre la population lorsqu'elle s'exprime. On a déjà eu malheureusement plusieurs exemples par le passé de sa capacité à faire la sourde oreille aux mobilisations sociales. Donc la question qui va maintenant se poser, ça va être dans quel espace le dialogue va pouvoir s'ouvrir, et si oui, est-ce que ce dialogue va être fructueux, et puis sinon, dans quelles conditions la mobilisation va se durcir, et potentiellement avec de nouvelles mobilisations, de nouvelles journées de grève, des blocages, et un pays qui va s'orienter petit à petit vers la paralysie, jusqu'à faire céder le gouvernement.
Mehdi Bellabbas, comment ça s'est passé dans le Sud justement ? Est-ce que vous considérez, vous l'avez vu, vous nous l'avez dit, que justement la mobilisation était importante du côté de chez vous ? Et quand je dis du côté de chez vous, c'est du côté de Perpignan. Hein ?
De Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, dans le sud-ouest, le sud-sud-ouest.
C'est la culture d'ailleurs, c'est la culture là-bas. Hein.
C'était une très très belle, très très belle manifestation avec l'ensemble des syndicats représentés, les partis politiques également étaient là. Une mobilisation comme on ne l'avait pas vue ici à Perpignan depuis plus de 15 ans. Il y avait peut-être 15 à 20 000 participants. On verra ce que disent les chiffres dans la soirée ou demain chez nous. Mais sur une ville ou une agglomération de 110 000, 120 000 habitants, c'est énorme proportionnellement cette mobilisation-là. Je sais que dans les autres villes, à Toulouse, à Montpellier, il y a eu aussi plusieurs dizaines de milliers de manifestants qui ont défilé aujourd'hui. On a eu les écoles, beaucoup d'écoles fermées, beaucoup de services publics paralysés. Donc c'est un premier avertissement, un premier coup de semonce, et ma foi, c'est une très très belle mobilisation.
Ce qui est inédit aussi, c'est Nantes, justement, où on parle de plus de 40 000 personnes, ça aussi c'est inédit. Hein. On n'avait pas vu ça, paraît-il, à Nantes depuis très très longtemps, où plusieurs milliers de manifestants...
Ouais, c'est ça, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, plus de 15 ans.
Plus de 15 ans, effectivement. Ça s'annonce comment, alors, justement, cet engouement, justement, ça prend forme. Est-ce que vous pensez que ça va tenir dans le temps ?
Moi je l'espère, mais ce que je constate des échanges que j'ai eu dans le défilé, c'est que la colère elle est très très profonde, Adil, très très profonde. Les Françaises et les Français ne veulent pas de cette réforme. Les Françaises et les Français, ils estiment que la durée du travail, la durée de cotisation, c'est une ligne rouge qui va être franchie. Il y a d'autres moyens de financer la pérennité de notre système de retraite que de taper, que demander aux Français de travailler jusqu'à 65 et demain 67 ans. Ça pose tout un tas de questions qui touchent là, pour le coup, au pacte social, au pacte républicain. On travaille, on cotise toute sa vie et on a le droit quand même, une fois arrivé à la fin de sa carrière, de jouir quand même d'un repos bien mérité, d'autant plus qu'on sait bien que ça pénalise les ouvriers, les salariés qui ont les métiers les plus pénibles et qui ont l'espérance de vie en bonne santé la plus faible. On nous dit oui, la durée de vie s'allonge, il faut cotiser plus longtemps, il faut travailler plus longtemps.
Oui.
Mais dans l'absolu, la vraie question, c'est l'allongement de la durée de vie en bonne santé. Voilà. Et ça, ces questions-là, les questions de la pénibilité, on n'y est pas. Les questions de la prise en compte de carrières longues, de carrières difficiles, de carrières hachées, on n'y est pas. Et je pense que les Françaises et les Français vont se battre contre cette retraite, contre cette réforme des retraites, avec beaucoup de force.
Ils peuvent fléchir le gouvernement ?
Je l'espère. Je l'espère. Je ne suis pas convaincu. Je vous le cache pas. Ça va être difficile. Mais je l'espère, en tous les cas. Je le souhaite.
Merci, Mehdi Bellabbas, d'avoir été avec nous. Acteur politique.
Je vous en prie, Adil. Bonne continuation et à très bientôt.
Et au plaisir de vous retrouver, justement. À très bientôt. 18...
À très bientôt, j'en doute pas.
Merci.
Au revoir, Adil.
Au revoir, mon cher Mehdi Bellabbas. 18h48, bientôt. Allez, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Quand vous entendez ce jingle, ça c'est vous, ça vous concerne vous. Vous, partout en France, justement. Gréviste, pas gréviste, vous avez syndicat, pas syndicat, manifestant, pas manifestant. Je voudrais vous entendre justement au 01 53 48 3000. C'est votre espace et venez justement ici, comme tous les invités qu'on continue. D'ailleurs, on va continuer, on va avoir une députée, on va avoir Jérôme Rodriguez, on va avoir aussi d'autres journalistes. Donc, avant de les retrouver, je voudrais vous entendre vous. 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, partout en France. Est-ce que, comment vous avez vécu d'abord cette journée et quel soutien avez-vous, sous quelle forme et quel soutien vous avez évidemment suivi cette mobilisation? On parle de plus de 2 millions de manifestants, ça c'est la CGT. C'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui l'a annoncé tout à l'heure, qui vont être largement, dit-il, dépassés. 01 53 48 3000, je vous attends, chers amis auditeurs. Que vous ayez
01 jingle. 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ça veut dire, Anthony, quand il le lance plusieurs fois, ça veut dire appeler. C'est ça que ça veut dire. On vous attend le standard. Justement, Anthony vous attend au standard. Donc, nous attendons vos appels tout de suite, là, maintenant, concernant comment vous avez vécu cette journée de grève, cette forte mobilisation. Comment vous l'avez vécu et surtout, qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez observé et comment est-ce que vous pensez que ça prend forme, justement, cette colère prend forme, cette révolte prend forme. Il n'y a pas d'appel, ça veut dire quoi? J'ose pas croire qu'il n'y a personne qui puisse nous appeler.
Je pense que les gens ont peur.
Ben, ils n'ont pas. Pourquoi avoir peur? Pour parler des manifestations?
Peut-être.
Ben, de la grève, il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas besoin, il n'y a aucune crainte. Les États, ils parlent en toute liberté ici, hein, sans aucun souci. Hein.
La radio du peuple.
La radio du peuple, voilà, justement. 01 53 48 3000, je vous attends. Donc, venez en parler sur notre antenne, dans les informés, émission spéciale consacrée à la retraite, à la réforme des retraites. Peut-être que vous avez, la réforme des retraites, bon, après tout, peut-être que certains, ça leur parle pas, mais je voudrais vous l'entendre exprimer ici. Peut-être, c'est possible. Donc 01 53 48 3000, je ne bouge pas, je vous attends. Donc je ne bouge pas, vraiment je ne bouge pas. Quand je dis je bouge pas, c'est je bouge pas. Vous savez, moi vous me connaissez maintenant. Hein. Je ne bouge pas, je ne lâche rien. C'est ça mon slogan. On ne lâche rien. Et quand je dis on ne lâche rien, moi je ne bouge pas.
C'est la farcanerie qui arrive.
C'est ça. Allons-y, justement. Allez, en direct. Allez, on prend. On prend en direct. J'ai un premier appel et je vais le prendre en direct, tout de suite. En direct. Allô, bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où?
Malika du 92.
Quelle ville du 92, Malika?
Comment?
Quelle
à
ville?
Châtillon.
Allez, allons-y. Justement, cette journée de mouvement, de cette forte mobilisation. On parle de plus de 2 millions de manifestants, hein, selon la CGT.
Tout à fait.
Vous dites quoi, vous?
Bah, nous, pareillement, puisqu'on était sur place et il y avait énormément de monde pour nous dire on n'arrivait pas.
Vous étiez sur place? Ah, c'est bien, vous étiez donc. Vous avez fait grève aujourd'hui?
On a fait grève, on a manifesté.
Parlez-en justement. Comment ça s'est passé?
Alors, on a fait grève, on a manifesté. Nous, on fait partie du syndicat Sud.
Sud.
Santé.
Et comment. Qu'est-ce que vous avez entendu ici et là? Est-ce qu'il y avait. On parlait juste simplement de retraite ou est-ce qu'on parlait aussi d'autre chose?
Alors nous, on représente la santé puisqu'on a, on s'est déplacé avec plusieurs hôpitaux, donc retraite et forcément santé.
Oui, santé parce que vous êtes dans l'univers.
Ça va mal aussi, donc.
Oui.
Voilà. se déplacer pour tout ça, parce que on se sent plus que concerné.
Oui.
Dans cette réforme-là, ils nous demandent de travailler plus et c'est déjà pénible pour nous actuellement. On se voit mal.
Ça va mal dans les hôpitaux, hein, c'est ça. Hein.
Voilà.
Ça va mal, hein, dans les hôpitaux.
Tout à fait, oui, ça va mal. Les gens sont grévistes mais ne peuvent pas se déplacer, malheureusement, puisqu'ils sont assignés.
Vous, gréviste, justement, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous allez. C'est sûr,
on
dit quoi? Vous allez continuer?
C'est...
Vous allez reconduire la grève? Vous allez.
C'est reconductible, donc ce serait, il y aura peut-être une autre date, mais ça on laisse les organisations principales l'annoncer, mais ce serait peut-être le mardi 24 janvier. Ouais.
Est-ce que ça, est-ce que vous considérez que c'est un énorme succès aujourd'hui?
Ça a été un énorme succès et on est prêt à faire une grève en illimité.
En illimité, un peu comme
voilà,
en 95.
Pour avoir ce qu'on veut. Pour arrêter cette réforme.
Pour arrêter cette réforme. Je l'aurai, on l'aura compris. Vous, donc, vous avez été sur place. Merci de nous avoir commenté, évidemment, vous, syndicat à Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous.
Syndicat Sud Santé, pardon.
Sud Santé, pardon. Sud Santé.
Rien à voir avec Sud Radio.
Sud Radio, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Sud Radio, c'est une radio ça, non? Ouais, c'est une radio, Sud Radio. Ça n'a rien à voir, vous avez raison, merci.
Radio.
De... Là, vous avez raison, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de Sud Radio, non? Sud Radio, c'est une radio. Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé. Oui, désolé. C'est Sud Santé, vous avez raison, Sud Santé. Merci, Sud Santé. Merci et bon courage à vous pour la suite.
Merci, on continue. Merci, bonne soirée.
Et
merci,
on ne lâche rien, c'est ça?
On ne lâche rien. C'est
absolument.
Le slogan de Sud Santé, on ne lâche rien.
Et bien, nous aussi, c'est notre slogan.
Merci, allez, bonne soirée.
Bonne soirée, c'était une manifestante. Je vais juste saluer Jérôme avant de lancer la pub qui va durer quelques secondes. Bonjour Jérôme.
Salut Adil, ça va?
Très bien, Jérôme Rodriguez, qui est une des figures les plus importantes des Gilets jaunes. Il est avec nous, on vous retrouve dans une poignée de secondes à peine de lancer la pub et on se retrouve tout de suite après, mon cher Jérôme, ça vous va?
Pas de soucis, à tout à l'heure.
À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
18h56, si vous venez de le retrouver, Les Informés, vous savez, cette émission spéciale consacrée à la réforme des retraites. Et nous continuons de recevoir le défilé de nos invités, justement, qui viennent en parler, analyser et décrypter. Jérôme Rodriguez, une des figures emblématiques des Gilets jaunes, est avec nous. Rebonsoir, Jérôme Rodriguez.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Comment vous avez vécu cette forte mobilisation? Philippe Martinez, pardon, le secrétaire général de la CGT, parle plus de 2 millions de manifestants. C'est énorme, mon cher Jérôme Rodriguez.
Alors, j'avouerai que j'ai pas de recul du fait que j'ai pas eu accès aux médias de toute l'après-midi, vous comprendrez, mais du peu de choses que j'ai pu voir sur les remontées d'informations au niveau des provinces et des différentes villes de province, c'est quand même assez énorme. En ce qui concerne Paris, c'est juste exceptionnel. Ça fait 4 ans que je suis dans la rue. Ça fait 4 ans que j'attends ça.
Ouais.
4 ans que j'attends une union solidaire, que j'attends que le peuple parle d'une même voix, quelle que soit sa couleur, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, quelle que soit sa sexualité.
Et y compris les jeunes.
Sa croyance. Et c'est ça aussi qui m'a énormément surpris, parce que ça fait quand même 4 ans qu'on les attend. Que la dernière fois que j'ai croisé un jeune qui me dit merci pour ce que vous faites, je l'ai regardé, j'ai dit mais non, merci pour votre soutien, je lui ai dit que c'était à nous, qu'il était content, et je lui ai dit que c'était à nous de soutenir notre jeunesse. Mais il faut que la jeunesse aujourd'hui se bouge aussi, qu'elle sorte un petit peu de ses écrans. Et quand je vois certains médias qui se permettent de dire mais les lycéens n'ont pas à protester parce qu'ils n'ont jamais travaillé,
si, on les a
ce sont eux les futurs travailleurs. D'accord? Et c'est quoi cette démocratie aujourd'hui, cette liberté de parole, où on va interdire à un lycéen de s'exprimer sur la réforme des retraites parce qu'il est lycéen ou alors étudiant? Il y avait des grandes écoles aujourd'hui présentes dans la manif, comme l'ENS, l'école normale sup, qui était présente. Cette catégorie d'intello qu'on aura besoin peut-être plus tard dans la France, dans notre futur, pour qu'ils se permettent de réfléchir et nous améliorer le quotidien. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une forte présence de jeunesse, et ça fait quand même du boom au cœur, quoi.
Quand je vous entends, du boom au cœur, justement, est-ce que cela provoque chez vous, évidemment, encore plus d'encouragement, encore plus d'enthousiasme d'aller vous saisir, d'aller vous emparer de la rue? Est-ce que vous vous retrouvez grâce à ça une seconde énergie, en quelque sorte, chez vous?
C'est pas une question de seconde énergie, c'est que tu finis par comprendre que tu arrives à créer du lien social et qu'il faut sortir dans la rue, rencontrer des gens et s'apercevoir qu'au final, on a tous les mêmes problèmes. C'est ça que les manifestes apportent, c'est de créer ce lien social aujourd'hui qui a été complètement détruit par des années et des années d'individualisme et qui a été encore plus renforcé par les différentes procédures qui avaient été mises en place par rapport au Covid quand on était enfermé à la maison. Le lien social a été détruit aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. À partir du moment où on est en désaccord avec quelqu'un, on est forcément un ennemi, Sauf que moi, aujourd'hui, ma philosophie, c'est que de nos désaccords, on peut trouver des accords. On peut trouver des points positifs qui permettraient d'améliorer le quotidien de l'ensemble des Français. Et le quotidien, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La situation actuelle, elle est responsable du passé. La situation présente, ils sont incapables de la régler et ils sont en train de nous promettre qu'ils vont nous régler notre futur.
Oui, oui.
Les problèmes du présent aujourd'hui, c'est l'ensemble des augmentations, énergie, carburant, et je vous parle même pas des prix en magasin.
Mais justement, cette mobilisation, Jérôme Rodriguez, c'est une mobilisation qui ne faisait pas état simplement de cette réforme de retraite. On a tout entendu, justement, mon cher Jérôme Rodriguez. On a parlé d'une colère. On a parlé d'inflation. On a parlé de prix chers. On a parlé de notre quotidien. On a tout entendu.
Mais factuellement, on gagne. Le combat des retraites, qu'est-ce qu'on fait ? Passez-moi l'expression, on crève la gueule ouverte avec 1200 euros par mois à pas pouvoir nourrir nos familles et à se nourrir convenablement, mais on n'y arrivera jamais à la retraite. C'est ça le souci. Tu vois ? C'est à un moment donné, c'est que les gens, il faudrait qu'ils réalisent que ces gens-là ne peuvent pas s'occuper de notre futur, ils sont déjà incapables de s'occuper de notre présent.
Oui.
Tu sais, je vais te dire une chose.
Oui.
Et si les auditeurs m'écoutent ?
Ah ben, ils sont nombreux à vous écouter.
Qui que je sois, je vous demande juste de vous poser une question. Parce que tu sais, moi je me suis remis en cause sur le mouvement des gilets jaunes. On est sorti dans la rue en gueulant, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Mais quoi qu'il arrive, on est dans l'obligation d'acheter parce qu'on doit nourrir notre famille, quoi qu'il advienne.
Oui.
Sauf qu'on aurait dû poser la question, vous faites quoi de notre argent ? Je vais vous donner un exemple très concret. On a investi des milliards d'euros dans des centrales nucléaires qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que vous avez fait de notre argent ? On a investi des milliards d'euros sur la maintenance de nos centrales nucléaires pour pouvoir bénéficier d'une autonomie en cas de problème. Aujourd'hui, les centrales nucléaires ne fonctionnent pas. Pire, on te demande que pour qu'elles fonctionnent, tu chauffes à 19 degrés et que potentiellement, on va te couper ton électricité 2 heures et tu vas te prendre 400% d'augmentation. Qu'est-ce que vous avez fait de notre argent ? S'il y a des parents qui m'écoutent, quand vous avez votre adolescent qui vient vous demander un billet, la première question que vous lui posez, c'est « Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ?» Aujourd'hui, les Français ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'on fait de notre argent qu'on en paye des impôts. On paye 60 euros sur un billet de 100 euros d'essence. Sur ces 60 euros, vous avez 300 000 personnes qui tombent dans la rue. Vous avez des hôpitaux qui sont délabrés. Vous avez l'éducation nationale qui est déglinguée. Vous avez les services publics qui sont inexistants. Qu'est-ce que vous faites de notre argent ? 3 000 milliards de dettes. J'invite les Français, avec 200 euros de découvert, d'ouvrir la porte de la banque pour demander un crédit et s'acheter une véhicule électrique, je vous garantis que le banquier ne vous ouvre pas la porte. Sauf qu'aujourd'hui, on a 3 000 milliards de dettes. Vous avez fait quoi de notre argent ? Notre argent est géré par une équipe d'incompétents qui n'a jamais travaillé, qui ne sait pas ce que c'est le moindre centime pour finir le mois et qui jongle avec nos milliards. On n'a aucun service. Dans toute société capitaliste, tout tourne autour du service client et on en a pour notre argent contractuellement parlant. Aujourd'hui, on paye un service électrique qui est défaillant. C'est pas normal.
Vous aviez justement passé un coup de gueule chez un confrère, hein, donc justement un coup de gueule sur l'inflation pour soutenir évidemment les artisans, un certain nombre de choses. Et il y a une phrase moi que je retiens. Il y a quelques mois, vous avez dit socialement, ils veulent me déglinguer en parlant de vous. Aujourd'hui, vous dites quoi aujourd'hui quand vous voyez cette manifestation, quand on parle du plus de ce pari gagné justement par les différents organisateurs. Est-ce que vous renvoyez évidemment ce que vous avez votre déclaration?
C'est-à-dire, j'ai pas compris, Adil, il y a eu un peu de bruit.
Non, je disais, puisque vous disiez, il y a quelques mois, socialement, ils veulent me déglinguer. Aujourd'hui, vous leur répondez quoi ?
Ah, mais ça continue. J'en suis à plus de 10 000 euros d'amende, ils viennent me prélever de l'argent sur mon compte, ma maison est photographiée, je suis constamment convoqué par la police sur des sujets. Vous voyez, moi, je pèse 60 kilos tout mouillé, on m'accuse d'avoir mis des coups de boule à la brave. Vous voyez ? Donc on vient me chercher tout un tas de problèmes. Le prochain tribunal que je vais me faire, c'est soi-disant moi l'organisateur, on voit de la liberté, alors que tous les organisateurs sont passés dans tous les médias télé. Ils les connaissent, les organisateurs, mais c'est moi qui vais payer pour tout le monde.
Ouais.
Le but du jeu, c'est pas que l'œil crevé, hein, parce qu'ils m'ont crevé un œil, et je rappelle qu'ils en ont crevé 40, d'accord ? C'est tout ce qu'ils ont fait derrière. Aller retrouver du travail, quand le gouvernement s'est permis de m'insulter en disant que j'étais dealer de drogue, escroc de magasin, qu'accessoirement je tabasse ma femme.
Ça
détruit un homme socialement. Tu connais la justice médiatique. Il suffit que tu portes l'accusation d'une saloperie et t'es marqué à vie, même si la justice te disculpe. Tu vois ?
Absolument.
C'est ça aujourd'hui le problème. Après, je veux pas faire ma pleureuse. Il est clair que quand je m'engageais dans là-dedans, je ne m'attendais pas à ça. Je le paye. Je pense que je vais le payer toute ma vie. Mais si quelque part on en tire un bénéfice au nom du peuple, eh ben, ce sera un mal pour un bien.
Jérôme Rodriguez, justement, vous le disiez que c'était un pari plutôt gagné concernant cette journée, avec plus de 2 millions. Justement, qu'est-ce qui risque de se produire? Qu'est-ce qui risque de se passer, justement, dans les jours, dans les semaines à venir? Est-ce que tout ça, évidemment, ça peut faire plier le gouvernement?
Je ne peux pas te dire. Il faut savoir une chose. Tu as 600 000 syndiqués aujourd'hui en France. D'accord? Nous, quand je dis nous, c'est les gilets jaunes, l'ensemble des citoyens qui portent ou pas un gilet jaune sont représentés par qui aujourd'hui? À quel moment, quand il va y avoir négociation, on va inviter le peuple non étiqueté, non partisan, non politique autour de la table pour pouvoir aussi défendre le bout de gras de tous ceux qui ne sont pas représentés? Parce que c'est pas Martinez qui va m'appeler au téléphone pour dire viens autour de la table, parce que vous aussi, vous allez trinquer. Donc ces gens-là vont se mettre autour d'une table.
Quand vous dites Martinez, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, oui.
Voilà, alors excusez-moi, je focalise sur cette personne, premier syndicat de France, c'est un peu comme BFM TV, première chaîne info de France. Donc forcément, c'est les premiers qui prennent. Moi, j'ai déjà eu Martinez en face de moi. Quand le mec, il me dit, c'est pas moi le chef, envoie des millions de personnes dans la rue faire grève et tu me dis que c'est pas toi le chef. Tu vois, à un moment donné, il faut un petit peu prendre ses responsabilités. Maintenant, il est clair qu'aucun syndicat ne viendra voir des gilets jaunes et qu'ils viennent pas me sortir le délire de « Oui, mais il n'y a pas de représentants, il y a des têtes connues, il suffit de venir leur parler. » Et moi, je vous présenterai des gens qui seront aptes à pouvoir négocier autour d'une table pour que l'ensemble des citoyens aujourd'hui qui ne bénéficient pas d'une corporation à laquelle ils adhèrent puissent aussi bénéficier du fruit de ce combat. Mmh. Parce qu'on ne serait pas 1 million sur Paris s'il n'y avait pas l'ensemble des citoyens non étiquetés, s'il n'y avait pas l'ensemble des gilets jaunes.
Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs qui vous écoutent partout en France, justement, concernant cette manifestation et concernant la suite qui peut nous attendre, Jérôme Rodriguez?
Quelle que soit la personne que tu es, cher auditeur, que tu écoutes, nous faisons tous le même geste aujourd'hui, celui d'ouvrir le frigo et de s'apercevoir qu'il est vide ou alors qu'il nous coûte de plus en plus cher. Quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, quelles que soient nos préférences, on est tous pareils. Même les riches, aujourd'hui, se font avoir à la caisse. Alors, ils ont plus les moyens que les pauvres. Mais on est tous, s'il y a bien quelque chose qui n'est pas raciste aujourd'hui dans ce monde, c'est le capitalisme. Pour prendre votre argent, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur. Et on le prend volontiers. Et là, on est tous concernés. Tous concernés. Même le raciste, même le gauchiste, même le mec du centre. On est tous concernés aujourd'hui par l'augmentation des prix. Et je vous le dis, en économie, chaque prix qui augmente ne baissera jamais.
Merci Jérôme Rodriguez d'avoir été avec nous, je le rappelle, figure emblématique de avec plaisir justement, pour commenter cette actualité concernant la mobilisation, on parle de plus de 2 millions de manifestants. Merci, au plaisir Jérôme Rodriguez, figure emblématique des gilets jaunes.
Bonsoir à vous tous, merci à vous.
Merci, nous continuons de recevoir nos invités, nous sommes avec Sabrina Sebaï. Bonsoir Sabrina Sebaï, députée des Hauts-de-Seine de la 4e circonscription, je le rappelle, elle a été donc adjointe au maire à Ivry-sur-Seine. Bonsoir madame la députée.
Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM.
Merci d'être avec nous Sabrina Sebaï, madame la députée, justement. Vous étiez sur place, me semble-t-il, vous avez manifesté aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en avez, quel constat et quel bilan vous en tirez, madame la députée?
En effet, j'étais donc présente à la manifestation sur Paris.
Et avec plusieurs députés de vos collègues.
Énormément de députés présents, effectivement. Et franchement, c'était une mobilisation historique. Je pense que c'est le terme qu'il faut retenir aujourd'hui de cette mobilisation massive.
Je rappelle, excusez-moi de vous interrompre, vous représentez Europe Écologie Les Verts. Pardonnez-moi, oui. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Voilà.
Et donc, je disais, vraiment une très très forte mobilisation. Le cortège a démarré et plusieurs heures après, il y avait encore des gens qui étaient à République, qui n'avaient pas encore démarré, tellement il y avait du monde en fait sur ce cortège. Et je pense que c'est très très important d'être nombreux pour ce premier rendez-vous d'une mobilisation.
Il y avait tellement de monde qu'à un moment, c'était bloqué.
C'était bloqué. D'ailleurs, la police a dû ouvrir d'autres artères pour libérer la place de la République qui était vraiment pleine à craquer.
Personne ici attendait. On parlait d'une prévision entre 700 et 750 000 manifestants en France, je parle. Et puis voilà que Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, nous a annoncé il y a peu de temps, quelques minutes à peine, plus de 2 millions de manifestants partout en France. Peut-on parler d'un pari gagné, d'un énorme succès? Madame la députée, Madame Sabrina Sebaï.
Eh ben oui, c'est un succès, comme je le disais. C'est le premier rendez-vous d'une mobilisation qui va durer, puisque vous savez, le projet de loi va être présenté prochainement. Nous n'avons pas encore le contenu du texte exactement. Donc je pense que c'était important de marquer le coup quand on sait que plus entre 70% et 80% de la population rejette ce projet de loi. Et d'ailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle, que ce soit des employés, des ouvriers ou des cadres, Cette réforme est majoritairement rejetée par la population. Je pense que c'était important, effectivement, de marquer ce coup en étant présent massivement aujourd'hui. Et c'est un pari réussi.
Dites-moi, Madame la députée, justement, à Paris Réussi, on a tout entendu, vous qui étiez sur le terrain, vous parliez à l'instant que vous avez échangé avec les uns et les autres. Justement, qu'est-ce qui s'est dit? Quels sont les mots que vous avez, avec lesquels vous avez échangé avec les manifestants? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle d'une colère, c'est pas que la retraite, c'est aussi l'inflation, c'est aussi cette vie chère qui anime le quotidien de nos Français.
Ben, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand on parle avec les gens, on se rend compte que déjà, dès le début du mois, en fait, le compte en banque, il est déjà dans le rouge, il est déjà dans le négatif. Donc, on paye les factures de première nécessité, à savoir son loyer et un peu de quoi se nourrir, mais c'est extrêmement difficile. Et on ajoute à tout cela une réforme inutile, injuste, malgré les mots choisis par le gouvernement qui essaye de faire passer ça pour une mesure de justice sociale, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mmh. Et surtout, on voit bien, c'est une mesure qui n'a pas de raison d'être, puisque tous les scénarios aujourd'hui présentés par le corps indique qu'en fait le système sera à l'équilibre quoi qu'il arrive.
Vous êtes député, est-ce que vous regrettez qu'il n'y a pas eu suffisamment de concertation, de dialogue au sein de l'hémicycle par exemple? Est-ce que vous pensez que cette manifestation d'aujourd'hui va provoquer une concertation et un débat surtout qui peut s'installer au sein de l'hémicycle, vous, député?
En réalité, quand on demande une concertation ou un débat, c'est qu'on est prêt à négocier quelque chose sur un projet ou sur une réforme. Ce n'est pas le cas. On a deux projets de société diamétralement opposés. Ils proposent la retraite à 64 ans, nous proposons la retraite à 60 ans. Ils nous indiquent que le système est déficitaire, on leur dit que ce n'est pas vrai, le système il est excédentaire. Et que donc aujourd'hui, nous pouvons tout à fait ne pas changer le système de répartition de retraite, ne pas augmenter le temps de travail des gens et les faire partir plus tard. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on discute et qu'on négocie quand on est en désaccord?
Mais alors, comment vous voyez les choses, vous, madame la députée? Comment vous voyez les choses? Est-ce que les choses vont au sein de l'hémicycle, là, prochainement, vous allez vous retrouver? Vous allez forcément en reparler de cette réforme des retraites? Qu'est-ce qui va se passer?
On va en parler, le texte va être présenté, on va l'amender, on va déposer des amendements, un maximum d'amendements, bien évidemment, pour essayer de contrer cette réforme. Et l'objectif, il est clair pour nous, c'est que le texte soit retiré.
Et vous pensez vraiment, Europe Écologie Les Verts, madame la députée, qu'il peut être retiré? Puisque, visiblement, Emmanuel Macron aurait plié des tractations déjà avec les Républicains.
Oui, mais même chez les Républicains, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des parlementaires républicains qui disent qu'ils ne voteront pas le texte. Il y a des députés de la majorité présidentielle qui indiquent qu'ils ne voteront pas le texte.
Oui.
Donc, on voit bien que même au sein de cette majorité ou de cette alliance de circonstances sur ce texte de loi, il n'y a pas consensus aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ils se sont appuyés sur le rapport du corps. Et même le président du corps aujourd'hui s'est exprimé pour dire que ce n'est pas vrai. Le système n'est pas en danger. Donc à partir de ce moment-là, la réalité, c'est que ce gouvernement veut faire payer le quoi qu'il en coûte à tout le monde. Il veut faire payer les mesures fiscales, les cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux milliardaires de ce pays, à tout le monde. Et nous sommes contre ce projet de société.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui? Est-ce que la manifestation, est-ce que vous, députés, est-ce que vous pensez que ça peut s'installer, justement, cette mobilisation peut s'installer à la fois partout en France et cette mobilisation continuera évidemment d'exister dans les prochaines semaines?
Bah, moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'expérience nous a montré que quand on perd des droits, quand on perd ces droits, on ne les récupère jamais et au contraire, c'est de pire en pire. On l'a vu il y a quelques années, quand on a commencé à privatiser la RATP. Et en fait, il y a eu des mobilisations qui n'ont peut-être pas été assez importantes, qui ont permis de faire plier ce projet. Aujourd'hui, on a un transport en commun en Île-de-France qui est une catastrophe. On n'arrive plus à recruter de chauffeurs de la RATP, par exemple. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce projet est massivement rejeté. Et que s'il est massivement rejeté, il faut que cela se traduise dans la rue, bien évidemment. La mobilisation doit continuer. Je disais, ce n'est qu'un premier rendez-vous. Mais elle se fera aussi au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat, parce que c'est aussi par l'arme législative que nous arriverons à faire.
Donc vous, députée, Madame Sabrina Sebaï, vous, députée, Madame la députée, vous ne lâcherez rien au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale?
On ne lâchera rien jusqu'à ce que le texte soit retiré.
Merci, on l'aura compris, évidemment, vous représentez Europe Écologie Les Verts. Merci Sabrina Sebaï, madame la députée, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes députée des Hauts-de-Seine dans la 4e circonscription. Merci Sabrina Sebaï.
Merci beaucoup.
Au plaisir, 01 53 48 3000, si vous voulez nous évidemment venir commenter cette émission spéciale consacrée aux retraites, mais pas que, puisque évidemment c'est aussi toutes les colères. 01 53 48 3000, vous venez en parler, et puis on se retrouvera aussi avec Ibouba qui est journaliste. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h 19h30, et les informés présentés par Adil Farkan.
Et c'est 10... ainsi que ça se passe, chers amis auditeurs, sur Beurre FM, les informés. Émission spéciale mobilisation de cette journée consacrée donc à la réforme des retraites, mais pas que, puisque évidemment, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, dans la bouche de tous nos invités, évidemment, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi l'inflation, cette somme d'addition, hein, de toutes les colères, de toutes les révoltes qui viennent évidemment s'exprimer aujourd'hui dans les rues de toute la France. Nous sommes avec Ibouba qui va venir aussi nous parler. Il est journaliste, hein, il va nous donner son sentiment concernant cette grève. Je le rappelle, alors, ça vient de tomber, je vous donne les chiffres, c'est officiel. 1,12 million de manifestants selon la police, d'accord, ça c'est Beauvau. Et plus de 2 millions selon les syndicats, et plus précisément Philippe Martinez qui nous annonçait qu'il y avait plus de 2 millions de manifestants en France, partout en France. Ibouba est avec nous en direct. Ibouba, journaliste aussi, donc qui est notre invité. Ibouba, bonsoir.
Bonsoir Adil Farkan.
Bonsoir. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a frappé aujourd'hui durant cette forte mobilisation en France, et puis avec les chiffres que je viens d'annoncer?
Ah ben c'est le monde fou. Je crois que les gens ont compris et que tout le monde s'est mobilisé pour essayer de se faire voir surtout et dire non d'une façon ou d'une autre donc à ce que nous propose le président de la République. Comme vous le savez très bien, donc aujourd'hui l'âge réel qui a été prononcé par le président de la République n'est pas ce qui arrange la population française. Et vous avez vu la masse aujourd'hui, la population a pu manifester à sa façon ou d'une autre, donc d'une façon vraiment assidue et d'une façon qu'on n'a pas l'habitude de voir effectivement.
Et tout s'est bien déroulé, hein, aucun incident à déplorer hormis 30 interpellations.
Non, absolument. C'était fait d'une façon très civilisée et que les gens, ils étaient là. Tout le monde donc a voulu manifester donc d'une façon pacifique. Et c'est ce qu'attendaient plutôt donc les organisateurs, mais aussi la population française, puisque de temps il y a des gens qui n'ont pas pu quand même se déplacer, mais cette foule immense a traduit d'une façon ou d'une autre donc ce qu'ils ressentaient, ce que ressentaient les Français donc par rapport à effectivement à ce que veut proposer le président de la République à la population française.
Dites-moi, Ibouba, cette mobilisation, est-ce que finalement elle peut faire bouger les lignes pour le gouvernement? Est-ce que franchement, sincèrement, est-ce que le gouvernement... Bon, j'ai vu qu'Elisabeth Borne, la première ministre, sur son Twitter, elle disait qu'elle saluait l'engagement des syndicats qui ont permis aux manifestants de se dérouler dans de bonnes conditions. Elle dit aussi que c'est la démocratie, toutes les opinions doivent s'exprimer. Mais est-ce que ça peut installer un débat, justement, entre Elisabeth Borne, la première ministre, et les syndicats?
Absolument, Adil Farkan, regardez par exemple la couche de la population qui s'est présentée aujourd'hui donc à la manifestation. Moi j'étais ébahi, hein, parce que j'ai vu des gens, des étudiants, des professeurs, même des gens des écoles qui se sont déplacés pour aller à la manifestation et pour dire non, 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 encore non au gouvernement. Et je crois que c'est pas rentré à l'oreille d'un sourd, et je profite de cette occasion d'ailleurs de féliciter donc tout ce beau monde, ces grands messieurs qui se sont déplacés et ces grandes dames qui sont parties avec leurs enfants, leurs familles, donc entiers, qui se sont déplacés pour dire non. Je crois que c'était la façon la plus unique pour faire entendre ou pour se faire entendre, donc, et que ça n'est pas rentré à l'oreille d'un sourd et que le président doit prendre cela en considération, le gouvernement français doit prendre cela en considération et les Français en tant que tels ont fait le geste pour prouver et dire à ce gouvernement qu'ils ne sont pas d'accord avec elle pour ces actes qu'ils doivent prendre pour la retraite donc de 64 ans à 67 ans.
Ça fait des années, Ibouba, qu'on n'a pas vu ce type de manifestation.
Cette
mobilisation.
Je vous ai dit que moi j'ai été personnellement frappé par ce beau monde aujourd'hui. Et vous y voyez du tout. Toutes les couches de la société y étaient présentes. Et c'est ce qu'il faudra souligner. Donc ça veut dire que c'est très important. Les Français se sont sentis lésés, blessés. Les Français se sont sentis une page de vie quasiment dénaturée. Donc ils ont voulu manifester cela. Et j'espère bien que les caciques français pourront comprendre cela et pourront voir cela.
Et Bouba, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent ce soir dans cette spéciale retraite, la réforme des retraites, à celles et ceux qui vous écoutent en France?
c'est de ne pas lâcher l'Est. Et puis, comme vous le dites dans votre slogan, on ne lâche rien. Ça, c'est signé Adil Farkan. Mais je crois que c'est un message aussi qui doit être codé et décodé. Et je voudrais profiter effectivement donc de cette occasion, puisque j'ai vu, j'en ai parlé aujourd'hui avec des gens, donc parce que je vous ai édité tout à l'heure donc ce problème de T-école. J'ai parlé à des gens qui étaient dans une T-école où j'ai rencontré, qui m'ont dit qu'ils allaient être aussi à cette manifestation-là pour prouver et montrer aux Français effectivement qu'ils ne étaient pas, ils n'étaient pas du tout d'accord donc avec ces accords-là. Je veux parler donc de Mehdi et puis de toute sa bande, et je profite de cette occasion pour les féliciter et de leur encourager, en plus leur dire justement de ne pas lâcher l'affaire, et il faudra continuer à se battre et à se faire entendre devant ce gouvernement-là.
Et Bouba, journaliste, merci d'avoir été avec nous donc en direct pour parler dans cette émission spéciale. Merci Bouba, et au plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup Adil Farkan, à très bientôt. Allez, au revoir.
À très bientôt, au revoir, 19h24 précisément. Je peux peut-être prendre un quelques auditeurs, hein, peut-être certainement Anthony. 0153483000, allez, le jingle, on le lance. Comme ça, on imprègne le numéro. Le voici, le voilà.
0153483000. Les informés vous donnent la parole.
Je vous donne la parole, justement. Anthony vous attend au standard au 0153483000 avant de rendre l'antenne. Je vous attends pour nous livrer, évidemment, dans le cadre de cette émission spéciale, comment vous avez vécu cette journée et va-t-elle s'inscrire dans l'histoire, justement. Moi, je pense, hein, évidemment, comment tu as vu ça, Anthony?
Bah, c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. On a encore les images qui nous viennent en direct avec ce chiffre que tu as donné qui est extraordinaire.
Exactement.
Honnêtement, moi, ça me choque pas qu'il y ait tant de Français dans la rue pour manifester, parce que tout est cher. Et comme moi, je te l'avais dit la dernière fois, je bosse en magasin le week-end et les prix ont plus qu'explosé.
Et ça ne fait que commencer, hein.
Ça fait que commencer. Et quand je vois des amis à moi qui sont étudiants ou des mères de famille qui n'arrivent même pas à payer leur fin de mois parce que tout explose. C'est déchirant. C'est terrible.
Je suis d'accord avec vous.
Il y a tout qui explose.
Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah écoutez, effectivement, c'était aussi ça qui a été exprimé dans les rues de France, justement, cette inflation, ce panier de courses dont vous faites référence. C'est aussi cette vie chère, l'électricité, le gaz et l'essence. Bref, tout ça, évidemment, s'annonce dans les jours à venir, dans les semaines à venir, encore plus présent. Voilà, c'était cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Émission spéciale consacrée à la réforme des retraites. Demain, nous allons retrouver donc les débatteurs influenceurs, comme d'habitude, pour commenter cette actualité. Je vous remercie infiniment, Bilal Nedman. C'est Claude qui viendra donc prendre le relais pour de 20h à 21h avec Tamsport, et ensuite Vanessa à partir de 21h. Quant à moi, à demain pour la DER de la semaine, avec autant de plaisir, n'est-ce pas?
Exactement, et surtout...
On ne lâche rien. À demain, bonne soirée.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.